Bonjour à tout le monde. À cause de l'âge qu'on a, on veut vous dire que pour les aînés, je suis le mari de Françoise Rocha. Pour les jeunes, je suis le père de Federico Di Cembrino. C'est pas... Voilà. Ouais. Alors, vous avez situé bien où on est, ou qui on est. Maintenant, je laisse la parole à Françoise, qu'il va vous dire quelque chose d'intéressant à propos de nos yeux aussi.
Alors, j'aimerais d'abord dire que ce premier moment a été fort. Et ce passage qui a été lu dans Jean, évidemment, il est très, très important pour nous. Et on aurait bien aimé s'en arrêter là, mais vous nous avez invités à nous présenter à nouveau, à parler un peu de ce qu'on vit plus au sud. Donc, on va le faire et on le fait avec plaisir. J'aimerais d'abord vous faire une petite confession, toute petite, c'est que j'aurais aimé peaufiner ma préparation, mais hier, il y avait la fête au village à Aisin. Donc j'ai grandi à Aisin, et il y avait le Cor des Alpes. J'ai dit, il faut en tout cas que j'aille écouter le Cor des Alpes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les joueurs de Cor des Alpes, il y avait un cousin. Je précise, pour les aînés de nouveau, le fils de Louis et Alice Bollet. Et alors, on a passé bonne partie de la journée à tchatcher. Donc, ma préparation, hier soir, on était en visite, ma préparation, elle en est restée à mon brouillon. Seigneur, viens-moi en aide. Je vais essayer de concentrer environ 30 ans. Hein, je vais essayer de comprimer tout ça. Donc, pour tout ce qui manquera, ben, ce sera après le culte, d'accord? On va partir de fin 88. Chiro, à ce moment-là, nous ne nous connaissions pas, se trouvait en Sicile dans un centre de Teen Challenge. Et moi, de mon côté, après 10 ans d'enseignement à Nyon, j'avais demandé une année sabbatique pour aller faire une école de disciples au nord de l'Italie, tout près du Tessin. Durant ce temps, j'ai répondu à un appel missionnaire, et donc choisi de renoncer à un travail bien rémunéré. Et par la suite, bon, j'ai décidé de rester un temps avec Jem pour me fortifier. Chiro arrive dans le même centre l'année suivante pour faire lui aussi une école de disciples. Et pour être bref, nous nous sommes mariés l'année suivante à la fin de l'été. Nous sommes allés vivre au Tessin où Chiro a trouvé un travail, je vais être rapide. En l'espace de 3 ans sont nés nos 2 enfants, Floriane et Federico. Et voilà, la famille était constituée, nous étions prêts à partir. L'idée au départ, c'était de travailler avec un centre de Teen Challenge, mais la porte ne s'est pas ouverte. Et quelqu'un m'a dit, si la porte ne s'ouvre pas, c'est que Dieu a mieux pour vous. Le mieux pour nous, c'était la Sardaigne. Et en 94, on a entendu parler d'un endroit en Sardaigne qu'on connaissait parce qu'on y avait été, moi en 89 et l'année suivante aussi, durant donc nos écoles de disciples. Et cet endroit restait, si on veut, sans intendant, on va dire ça comme ça. Donc en l'espace de 4 mois, on a décidé de partir pour la Sardaigne. Donc, on se trouve là début 95. L'idée était donc d'aller aider dans un centre missionnaire. C'était un endroit qu'un pasteur suisse-allemand avait acheté justement pour en faire un centre de diffusion de l'évangile, mais c'était aussi maison d'accueil et lieu de rencontre de l'église des centres. Ça faisait beaucoup de choses. Après 1 an de collaboration avec ce pasteur, c'est un couple de Jem Italie qui vient pour établir un centre de jeunesse en mission là-bas, et donc on commence à collaborer avec eux. Et c'est là que nous restons jusqu'en 2002. Entre-temps, le couple qui est venu établir le ministère de Jem s'en est allé et nous a demandé de rester et de prendre la responsabilité, ce qu'après un temps, on a accepté de faire. En 2002, il faut déménager de cet endroit. Et je vous parle de quelque chose de plutôt difficile qui s'est passé dans des circonstances. Je n'entre pas dans les détails, ça a laissé pas mal de souffrance. Et Dieu, au travers d'un rêve, nous parle d'une maison à 8 km de là. Et c'est la maison que Jem va acheter, donc on parle de 2002, après 9 mois de gestation. C'est Casa Siloé qui a déjà été nommée ce matin. Cette propriété appartenait à un médecin, donc elle devient lieu d'accueil, de formation, de ressourcement, de guérison dans les mains du divin médecin. Et à part des périodes d'accueil pour des personnes jeunes et moins jeunes, donc je parle là de personnes qui viennent de façon, qui viennent comme individus, pas en groupe, hein, mais il y aura dans cet endroit une école de disciples en 2007, des formations estivales, des séminaires et entre autres et surtout des séminaires de relations d'aide avec le responsable du centre Siloé de Neuchâtel. Donc je parle de Pietro Bongiovanni. Nous l'avons connu suite à une école d'introduction à la relation d'aide que nous avons faite à Châtel, que vous nous avez offerte d'ailleurs. Et avec lui, nous avons fait un stage à Neuchâtel. Et par la suite, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup soutenus. Et au cours des années, lui a développé une approche en relation d'aide qui est très pratique et qui nous a trouvé plus qu'intéressés quand il est venu nous la donner. Et bien entendu, dans cet enseignement, il y a Jean Neuf qui, entre autres, parle justement du fait que nous sommes responsables de notre guérison. Et bon, lui-même nous a vraiment beaucoup soutenus et aidés à un moment critique quand nous étions pas loin de vouloir tout laisser tomber, le travail là-bas. À propos d'aide, hein, on parlait de relations d'aide, à propos d'aide, j'aimerais bien entendu parler du groupe de soutien et de prière en notre faveur qui s'est constitué au début des années 2000 avec Hermano. Je citerai très peu de noms, mais je veux citer Hermano parce que je crois qu'il a été à la base de ce groupe de prière. Et le but était justement de nous porter dans la prière, de faire le lien entre l'Église et la Sardaigne, de maintenir les contacts, d'être en sorte un pont entre Nyon et Irgoli, où nous habitons. Et ce pont s'est solidifié au cours des années. C'est un pont qui ne s'est pas, de loin, pas écroulé si on pense à Gênes. Ce groupe, à part justement nous porter, nous soutenir, est venu à plusieurs reprises, une fois pour une semaine d'intercession, plusieurs fois pour des semaines de travail, et je peux vous dire qu'après le passage de ces groupes, le changement était évident, que nous on était époustouflés et la gratitude était forte, forte, vraiment. C'est aussi ce groupe qui nous a suggéré à un certain moment de penser à un travail style B&B pour remplir un peu les creux, parce qu'en été, en automne, il y avait souvent des moments où il y avait peu de passages. Donc c'est un travail qui a commencé sur leur proposition. Donc toute cette activité du groupe de prière pour nous a été très importante, aussi bien le contact à distance, les visites. Donc vous imaginez que nous sommes sur une île vraiment loin du continent et chaque visite a eu son importance. Tout ce suivi nous a beaucoup, beaucoup encouragés et beaucoup aidés à aller de l'avant, même justement dans les moments les plus difficiles qui n'ont pas manqué. Et vu l'âge, comme a fait remarquer Chiro et la santé, on est joliment en bout de course maintenant, mais je dis bien bout de course à Casa Siloé, dans le sens que nous prions maintenant que dans les 2 ans à venir, la relève soit assurée. Mais j'aimerais dire que le travail d'intercession n'est pas terminé, de loin pas. Au contraire, ça va rester ça très très important parce que vous pensez bien quand il s'agira de quitter l'endroit, de quitter la Sardaigne, pour nous, ça ne va pas être facile parce qu'il y a des liens qui se sont tissés, il y a tout un, des relations, des amitiés. Moi, je pense que ce sera rude, mais en même temps, c'est juste. Il ne s'agit pas de prolonger non plus parce que il y a quelque chose qui se dessine aussi bien pour nous, mais sur l'île qui nous encourage. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous aurons encore besoin de vos prières. Et j'aimerais dire que dans les défis à relever pour nous dans ce temps, je dirais qu'il y a le fait de rester concerné par ce qui se passe sur les lieux, concentré aussi, sans trop se projeter sur la prochaine étape. Et à propos de ce qui se passe en ce moment, j'aimerais dire quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup encouragés. Et c'est lié à la famille d'une de nos amies. Donc, depuis 1996, nous avons fait connaissance à une amie qui s'est convertie beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, c'est un travail qui a eu lieu dans l'amitié. Elle s'est convertie il y a environ 5 ans. Et 3 ans après elle, sa sœur et son beau-frère se sont convertis à leur tour. Et lui, c'était quelqu'un de pas commode. Je dirais, c'était un dur à cuire. Hein. Vraiment, quelqu'un, on priait pour lui, mais on ne s'attendait pas à ce que tout d'un coup, il y ait une évolution, il y a eu un changement fantastique. Et nous continuons à prier pour toute la famille. C'est une famille étendue. Et l'autre dimanche, il y avait l'inauguration des nouveaux locaux de l'église où nous allons. Nous allons dans une communauté à Nuoro, où nous sommes passablement impliqués. Et notre ami avait invité, entre autres, ses parents. Quand celui qui donne le message fait un bref appel, la personne qui se lève, c'est le papa de notre ami. Et je dois vous dire que pour moi, ça a été vraiment émouvant, voir cet homme de 87 ans, c'est le seul qui s'est levé, cet homme de 87 ans qui répond à l'appel. Et donc, quelqu'un a prié pour lui. Et après, je crois qu'il ne se rendait pas bien compte de ce qu'il faisait. Mais après, il a dit à sa fille, c'est comme si j'étais née de nouveau. Et ça nous encourage beaucoup, parce que justement, il y a eu beaucoup de prières derrière ce qui se passe. Et nous sommes en train de voir qu'il y a tout un mouvement de conversion à Orosei, donc où nous avons habité les premières années. À Irgoli, où nous nous trouvons maintenant, c'est franchement à la traîne. Donc là, il y a une souffrance. Mais cet homme est d'Irgoli. Et nous croyons, moi je crois fermement, qu'il y a tout un ferment et qu'il va se passer quelque chose. Et je veux vous laisser sur cette note-là parce que c'est très réjouissant. Merci. Et je passe la parole à Chiro.
C'est vraiment difficile de s'arrêter là. Et pas donner encore de détails, parce que les détails, ça fait vraiment la structure de tout ce qui s'est passé. Hein. Mais on doit travailler avec le Kronos, hein, le Kairos. C'est pas encore là, mais on doit faire avec ça. Et surtout parce que on doit faire avec ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager, quelque chose qui m'a touché profondément, quelque chose qui m'a fait voir l'importance du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Ah, très souvent, ça c'est quelque chose que, oui, on le met dans des situations où des fois on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est. Même quand on lit la Bible, le Nouveau Testament surtout, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. il y a des paraboles, il y a des choses que Jésus y raconte, mais après, on ne sait pas qu'est-ce que c'est vraiment le royaume de Dieu. Et pourtant, Dieu, il est parti avec le royaume de Dieu de très loin. Il y a tout l'Ancien Testament qui parle d'un royaume. Et on sait que le Vieux Testament, c'est quelque chose que... C'est une ombre, hein, une ombre pour amener après la réalité avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec les apôtres, avec l'Église et avec le royaume. Hein, ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de faire avec nous, avec ses enfants, un royaume. Parce que si nous, on est des enfants de Dieu, on est les frères de Jésus. On est les frères de Jésus. Vous comprenez? Le roi des rois. Nous, on est les frères de Jésus. Et ça, il m'a fait toujours bouleverser chaque fois que je me concentrais, que je pensais à tout ça. J'étais vraiment bien quand je pensais à ça, parce qu'il faisait grandir mon espérance en Dieu, ma foi en Dieu, dire oui, oui, moi je crois que toi, tu veux faire ça à la fin de mes jours, à la fin du monde entier. Lui, il veut arriver à ce point-là. Et la chose qui m'a touché dernièrement, disons, c'est découvrir quelque chose. Et ça, je prends pour moi, ce n'est pas un enseignement que je veux vous donner, absolument pas. C'est un partage que je veux faire. C'est que j'ai découvert dans l'évangile de Matthieu les discours de Jésus qu'il a fait. Et j'ai lu ces discours un après l'autre, et à la fin de cette lecture, j'ai dit, mais il est en train de parler du royaume de Dieu dans chaque discours. Ça veut dire que son message, ce qu'il veut donner à les gens quand il était ici sur la terre, c'était de parler du royaume de Dieu. Et après, tu vois, dans ma petite tête, il y a beaucoup d'espace, hein, mais il y avait tous ces mots qu'il tournait à droite et à gauche. Il disait, mais l'Église, qu'est-ce que c'est alors l'Église? Et pourtant, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Mais vraiment, je crois ça. Et alors, j'ai commencé à mettre les choses un peu ensemble, un derrière l'autre. Et j'ai dit, mais bien sûr, l'Église, c'est l'endroit où on s'entraîne pour pratiquer les choses que Jésus il est en train de dire dans tous les discours qu'il donne. Alors ça il m'a ouvert les yeux. Il m'a ouvert les yeux. Peut-être je suis le dernier entre vous que les yeux ils sont ouverts dans ce domaine. Mais en tout cas, chacun de nous, il a besoin, dans certains domaines, d'avoir une aide. Comme ce matin, ils ont bien dit à plusieurs reprises, d'avoir les yeux ouverts. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Les cinq discours de Jésus... C'est quelque chose de qu'on peut si on les on se prend le temps pour les lire, hein, prendre le temps de lire, sans doute on peut voir quelque chose de très important qui sort à propos du royaume de Dieu. Dans le premier discours en Matthieu, c'est le chapitre 5, 6 et 7. Jésus, comme il a promis, il est allé chez les personnes de son peuple, le peuple d'Israël. Il est parlé chez eux. Il est allé vers eux à parler du royaume de Dieu. Parce qu'au fond, eux, ils étaient très à l'aise. Ils connaissaient très bien qu'est-ce que ça veut dire un royaume. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que eux, ils attendaient le Messie pour mettre de l'ordre de nouveau, comme ils devaient chasser les Romains, et puis eux, ils reprenaient comme avant. Hein? Avec les mauvais choix qu'ils ont faits. Mais Jésus, il voulait amener une idée différente du royaume. Et alors là, dans le chapitre 5, lui, pour montrer qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le royaume, les béatitudes, il dit, voilà. Hein? Vous voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre de côté, de ne pas comprendre. Hein? Beati voi, beati. Comment on dit beati? Heureux, hein? Heureux, heureux. Alors, il part avec une façon qui peut attraper les gens. C'est inclusif, hein? Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais et que je ne trouvais pas. Alors, ils essayent d'amener les gens vers lui. Ils disaient, venez, écoutez. Hein? Et alors, Jésus, là, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le royaume. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Le chapitre 10, encore, toujours de Matthieu, il dit que si vous voulez faire partie du royaume, il faut être fidèle. Fidèle. Et ça, bien sûr, Jésus, il dit ça à des gens qui ne sont pas du peuple d'Israël, mais il dit ça aussi aux gens du peuple d'Israël, parce que, en tout cas, tous les deux, tous les humains, s'ils acceptent d'entrer dans le royaume de Dieu, ils doivent être fidèles. Dieu, il désire que nous, on soit fidèles. C'est pas optionnel, non? Non, ça, c'est pas une option. Oui, moi, aujourd'hui, je suis fidèle, demain, on verra. Non. Alors, c'est quelque chose que on doit structurer notre vie et aller dans cette direction. Alors, toutes les autres choses que Jésus y dit à propos du royaume de Dieu, c'est vraiment, il donne des indications pratiques. Hein? Le chapitre 13 de Matthieu, il donne des paraboles. Le royaume de Dieu, il est comme ça. Le royaume de Dieu, il est comme ça. Et chaque parabole, il y a un principe. Il y a un principe qu'il explique. C'est pas qu'il explique seulement le royaume de Dieu, il est comme ça. Non, il y a un principe de comment on doit agir, de comment on doit être. Et après toutes ces différentes explications qu'il fait dans le chapitre 13, il y a le chapitre 18 qui dit les choses à ne pas faire et les choses à faire. Hein? Il dit ça, il dit des choses très pratiques, il dit des choses que tu dois faire, et c'est bien que tu choisis de faire ça, et puis des choses que tu ne dois pas faire. Et puis, à côté des choses que tu ne dois pas faire, au fond, il dit, si tu fais ça, tu dois demander pardon. Parce que si tu ne demandes pas pardon, moi, je ne te pardonne pas. Tout bêtement, hein, tout simple, comme ça. Il dit ça, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que de la même façon qu'on a été pardonné la première fois qu'on est entré dans le royaume de Dieu, qu'on a accepté que Jésus, il est mort à ma place, alors je suis entré dans le royaume de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. Et puis, on est entraîné avec les gens de l'Église, hein, à être ses enfants, à être dans le royaume de Dieu. Alors, on doit pratiquer ça. Et puis, il dit, mais si tu as quelques problèmes, si tu as quelque chose que tu oublies, si tu as quelque chose que ça ne marche pas dans ta vie, et tu reconnais que ça, c'est un péché, c'est quelque chose que moi, je n'aime pas, alors tu dois demander pardon. Parce qu'autrement, ça, c'est quelque chose que il empêche la relation avec toi. La relation avec toi. Parce que si on a cette relation, alors chaque fois qu'on se trouve un point interrogatif, hein, devant une question, on peut demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans une situation comme ça? C'est ça la bonne question. C'est ça, c'est tout simple, c'est vraiment simple. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est des questions qu'on peut faire tout simplement à Dieu. Si on a cette relation, c'est très important. C'est très important. Et il nous permet d'avoir toujours les yeux plus ouverts, hein, et voir toujours mieux. Moi, j'étais opéré à tous les deux les yeux de cataracte. Mais je vous dis que c'est vraiment agréable après. que tu peux voir comme il faut autour de toi. C'est vraiment agréable. C'est beau. Et Dieu, il veut faire ça avec nous. C'est seulement si on voit, on peut voir la lumière. Autrement, on ne peut pas la voir, la lumière. On doit avoir les yeux ouverts pour voir la lumière. Et ça, que c'est ça un peu le but de notre séjour en Sardaigne. C'est ouvrir les yeux des gens. C'est ça le but. Vraiment. C'est pas par hasard qu'on a mis le mot Siloé. C'est pas par hasard que dans cette maison, il y a un puits. Hein? Voilà. Et ça, ce n'est pas des choses que c'est nous qu'on a choisi comme ça. Oui, c'est très joli ce mot. Ça. Non. C'était vraiment quelque chose qu'on a reçu, et puis on a reçu aussi à travers le choix de la maison, à travers ce rêve que disait Françoise, où on a reçu l'indication quelle c'était la maison. Alors, si Dieu il était là derrière, c'est vrai. Nous, on peut avoir fait des choses que ça pouvait être fait d'une façon différente. Hein. Je suis d'accord avec tout le monde avec ça. Mais il y a certaines choses que je suis très, 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 disons, convaincu que derrière à tout ça, derrière à cet engagement, il y a Dieu. Parce que je pense que, je ne sais pas, il y a quelqu'un de vous qui est déjà venu en Sardaigne. C'est très joli, la Sardaigne. Hein, ouais, c'est très joli. Mais nous, on ne prie jamais pour la Sardaigne. On prie plutôt pour les gens qui habitent en Sardaigne. Vous comprenez la différence? Parce que, vous avez vu, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a de tous les côtés que tu tournes dans Sardaigne, c'est magnifique. Voilà. Alors, priez pour les gens qui sont en Sardaigne. Pour ces gens qui travaillent dans les champs, qui chaque deux fois par matin il doit prendre le lait aux brebis, qui doit faire le fromage, des gens que, voilà, qui travaillent une vie simple, simple. Je veux vous laisser avec une idée. Je suis plutôt, comment on peut dire, un promoteur du royaume de Dieu. Ça, je vais encourager chacun de vous à être un promoteur du royaume de Dieu. Parce que si on parle et on fait, on investit dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui reste dans l'endroit où Dieu y tient des trésors. Hein. Il met dans le nuage, et il Claude. Hein. Là, personne n'y peut voler, rien, personne. Hein. Et il est là, bien protégé. Alors, si on est engagé dans ce domaine de faire, je sais pas comment dire, de travailler au royaume de Dieu, voilà. Pas faire grandir parce que, je sais pas, on peut discuter sur ça. Mais sans doute s'engager pour le royaume de Dieu, je pense que Dieu, il est vraiment content qu'on fait ça. Parce que lui, il a donné son fils pour que ça, il peut se réaliser. Alors, Dieu, il a, et avec ça, j'ai fini. Hein. Vraiment. Dieu, il est engagé vers l'humanité dans deux grands domaines. Vers les gens qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, qui sont morts. Alors, il doit avoir l'accès à la croix, à Jésus, au sacrifice que lui, il a fait, et être pardonné, purifié. Le sang de Jésus purifie les péchés. Hein? Alors, une fois qu'il s'est passé ça, la personne y entre dans le royaume de Dieu, et puis il y a tout l'entourage de tous, qu'il embrasse cette personne et il peut la conduire, il peut la faire grandir, il peut l'entraîner. Hein? Et puis l'autre engagement de Dieu, c'est que, mais non, c'est là qu'ils sont dans le royaume de Dieu, il doit rester vivant. Il doit rester vivant, parce qu'il y a des risques. Il y a des risques. Parce que si tu ne pardonnes pas, comme je disais avant, il y a des risques qu'on descend toujours. Alors là, il y a des risques. Alors Dieu, il vous appelle, il nous appelle à faire ce travail entre nous, à pas faire amener les personnes vers ce risque de péché. Et même s'ils ont péché, il faut avoir une attitude de pardon. Et ça, c'est quelque chose que Jésus, il dit clairement dans ses discours. Surtout dans le 18. Et voilà. Moi, je vous laisse là. J'espère que j'ai donné un petit détail. C'est pas que je voulais amener un grand enseignement, parce que vous êtes gâtés ici en Suisse, surtout sur la côte. Vous avez beaucoup de choses à manger. Et plutôt, c'est le problème, entre guillemets, c'est assimiler tout ça, que ça peut être le problème. Voilà, alors j'espère que ce message, que je pense que tout le monde il a pu comprendre, même avec mon mauvais français, vous me pardonnez pour ça. Voilà, je vous remercie.